Les élèves de seconde 4, 8 et 9 du lycée Jean Monnet ont débattu sur la discrimination positive avec l'aide de leur professeur ES, Barbara Maurice.
Il y avait les contre et les pour. RVM les a accompagnés et nous vous proposons de les écouter.
Bonjour à tous les auditeurs d'RVM, je me présente. Je m'appelle Cléa, je suis actuellement au lycée Jean Monnet en classe de seconde 4. Mon professeur de CES se nomme Madame Maurice. Et aujourd'hui, je suis réunie avec plusieurs des élèves de ma classe pour vous faire un débat scientifique portant sur la discrimination positive. La discrimination positive, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des mesures mises en place afin de rétablir l'équilibre. Et c'est né aux États-Unis sous Kennedy, afin de rétablir l'équilibre entre les blancs et les noirs. Je tiens à préciser que le débat est scientifique, et donc que ce ne sont pas les opinions personnelles des élèves qui vont être dites dans ce débat. Nous allons commencer avec la discrimination positive pour les femmes. Premièrement, que pensez-vous de la loi sur la parité qui oblige 50% de femmes et 50% d'hommes en tant que candidats au présidentiel ? Anna, je vous écoute.
Merci. Nous avons eu l'occasion de parler de la socialisation. Nous avons vu que c'est actuellement sous domination masculine. On a quelques chiffres qui sont très intéressants. Il y a seulement 18,5% de femmes à l'Assemblée nationale, ce qui est très peu par rapport à la quantité d'hommes présentes, et 21% au Sénat. Je trouve ça inacceptable. Il y a des progrès qui sont faits actuellement, mais je trouve que ça doit évoluer et ainsi augmenter le nombre.
Je suis dans le parti contre la discrimination positive pour les femmes parce que ça pourrait être un cadeau empoisonné. On devrait être dans un système de méritocratie qui ferait que cette place n'est pas, cette place devrait être méritée plutôt que donnée par le genre de la personne.
Avez-vous quelque chose à répondre à cela ?
Nous avons toujours dit que les femmes étaient faites pour certaines choses et que les hommes pour d'autres. Moi, je ne suis pas d'accord. Je pense que les hommes et les femmes sont à peu près pareils. Si une femme peut le faire, un homme peut le faire. Et inversement, alors les deux peuvent le faire.
Yulia, je vous écoute.
Avec notre parti, on pensait aussi que ça sert à rien de faire 50% de femmes, 50% d'hommes, parce qu'après, les personnes, ils vont dire que, par exemple, une femme, si imaginons, elle a été élue par son parti, on va penser que c'est pas parce qu'elle le mérite ou parce qu'elle a les capacités pour le faire, mais juste dans le but de remplir un quota. Donc je pense que ça sert à rien. Après, on va les sous-estimer, leur dire qu'elles sont là pour remplir le quota et pas parce qu'elles ont les moyens de... pas parce qu'elles se donnent les moyens d'être là, en fait.
Quelque chose d'autre à ajouter ? Bien. Alors, nous allons passer à notre deuxième sujet qui porte sur les minorités ethniques. Donc, j'aimerais savoir ce que vous pensez du système de quotas qui a été mis en place aux États-Unis. Donc, les quotas, c'est un nombre minimum de personnes de couleur qu'on peut voir dans les médias, donc par exemple dans un film, ou acceptées dans les grandes écoles comme les universités. Noémie, je vous écoute.
Le système de quotas me semble vraiment, vraiment mauvais parce qu'il y a des étudiants qui vont se faire passer devant alors qu'ils ont peut-être des meilleures notes que les autres. Donc on devrait toujours être, comme pour la discrimination positive pour les femmes, dans un système de méritocratie, mériter sa place et ne pas être aidé. Tout ça parce que on fait partie d'une minorité ethnique.
Quant à moi, je trouve que cette population a été bien souvent discriminée depuis bien des temps et que instaurer un système de quotas à l'université, par exemple, leur permet d'accéder plus facilement à ce qu'ils ont envie de faire dans leur vie et de ne rien devoir aux autres.
Moi, en fait, c'est un petit peu comme pour la discrimination sur les femmes, c'est que ces personnes-là, on leur rend peut-être service, mais ça pourrit aussi les autres parce que ça serait pas juste que quelqu'un qui ait des résultats inférieurs passe devant quelqu'un je dis pas que la personne n'a pas travaillé, mais peut-être que ça va pas forcément l'aider, il va peut-être avoir du mal et au final il va peut-être pas y arriver. Et cette personne qui aurait pu y arriver, elle, on lui a refusé sa place, elle est obligée d'aller chercher ailleurs. Et peut-être que du coup, elle va avoir du mal à accéder à ce qu'elle voulait accéder en passant par cette école ou tout ce genre de choses parce que on n'a pas voulu d'elle juste en fonction de sa couleur de peau, et ça c'est injuste et ça rend vraiment pas service ni à l'un ni à l'autre.
Bien, Noémie a quelque chose à ajouter ?
Pour rebondir sur l'argument que Lulia vient de donner, ça peut mener au fait que les entreprises ou les écoles qui embauchent des personnes faisant partie d'une minorité ethnique peuvent se retrouver avec des personnes moins compétentes du coup, parce que ce seraient des personnes qui sortiraient d'école. Elles ont déjà été aidées et sont déjà passées devant des personnes qui auraient mérité leur place. Et ces entreprises vont les embaucher en pensant que ce sont des personnes capables de faire le job qu'on leur donne, et elles se retrouveraient avoir des personnes qui ont des compétences réduites, tout ça parce qu'on les a trop aidées et qu'elles se sont reposées sur ça.
On a vu aussi qu'aux États-Unis, il y avait eu plusieurs passages en justice à cause de ça, des personnes qui trouvaient cela injuste. Avez-vous quelque chose à dire à propos de ça ?
C'est totalement justifié de porter plainte parce que quelqu'un nous est passé devant tout simplement parce qu'on l'aide, alors qu'il ne le mérite pas forcément. Alors certes, il y a des arguments pour qui nous contredisent énormément parce que on ne peut pas vraiment départager. Il y aura toujours les personnes en fait qui en auront vraiment besoin, mais il y en a certaines qui n'en auront pas besoin et il faudrait trouver quelque chose d'autre pour les discriminer de façon positive plutôt que sur leur minorité ethnique.
Lou, à vous.
Aussi, je voulais parler, c'est du fait pour les écoles aussi. Parce que si ces personnes qui sont moins compétentes, elles sont prises à la place de personnes compétentes, aussi ça fait baisser l'estime de l'école si au final le taux de résultat des diplômes il est mauvais. Du coup, ça donne une mauvaise image à l'école alors que justement ces élèves, qu'ils soient blancs ou noirs, ça c'est pas l'importance. Ces élèves qui sont pas bons, pas forcément pas bons, mais qui ont plus de difficultés, qui vont pas réussir, ils donnent une mauvaise image et c'est dégradant pour l'école.
Oui, yes.
Ce qu'elle vient de dire Lou, des trucs comme quoi les élèves ils seraient pris moins compétents, comme quoi ça ferait baisser l'école. On va prendre par exemple un élève noir qui a 9 de moyenne contre un élève blanc qui a 12 de moyenne. On va prendre un élève blanc qui a il est 12 de moyenne et un élève noir peut-être qu'à 11,5, 11,75. Du coup, il n'y a pas beaucoup de différence.
Le problème, c'est que
on veut remplir un quota. Donc, si pour ne pas avoir de problème, l'école doit remplir ce quota, elle va remplir. Et peu importe, évidemment, ils vont essayer d'abord de prendre les personnes qui ont le plus de meilleures notes. Mais au bout d'un moment, s'ils arrivent à saturation, ils vont devoir remplir le quota par 20% sur le quota qui devait remplir de personnes qui n'ont pas les capacités de réussir dans ce domaine-là et qui pourraient réussir ailleurs et qui là vont échouer alors qu'il y a des personnes blanches qui auraient pu réussir mais dont on va refuser pour accéder aux personnes qui sont d'autres couleurs de peau.
Anna ?
Moi, j'ai qu'une chose à rajouter. La diversité, c'est extrêmement bien. Certes, on est tous différents, qu'on soit jaune, blanc, noir, de toutes les couleurs. Au final, on n'est pas si différents que ça, en fait. Donc, du coup, on ne devrait pas forcément regarder la couleur.
Julia, encore à vous ?
Justement, moi, je pense qu'on est tous pareils. Enfin, comme elle a dit Anna, c'est vrai, il n'y a pas de différence entre un noir ou un blanc. Enfin, il n'y a aucune différence. Et justement, c'est pour ça que je dis que ce n'est pas juste. Parce que du coup, on fait une différence entre les blancs et les noirs. Il n'y aurait pas à avoir à remplir un quota, il faudrait que ce soit naturel, on choisit les meilleurs. Il n'y a pas à choisir blanc ou noir, c'est juste ceux qui ont les meilleures notes. Sinon, justement, c'est faire une différence entre les blancs et les noirs. C'est totalement stupide parce qu'on est juste tous humains.
Donc il faudrait que le bulletin compte plus que la couleur.
Exactement.
Il ne faut pas du tout se baser sur le physique, mais juste sur les résultats.
Voilà.
Quelqu'un d'autre a quelque chose à ajouter ? Lorraine, à vous.
Mais tu te bases sur l'intelligence et tout, mais comme il y a une discrimination qui est là, et qu'au final tu prends pas par exemple les noirs dans ton école, ils auront aucune capacité pour réussir plus tard.
En fait, je pense que ce qu'il faudrait faire, c'est pas forcément mettre de la discrimination positive. Je pense qu'il devrait y avoir des personnes engagées qui devraient venir voir aussi, au nom de l'État, qui viennent voir les bulletins. Et que s'ils voient que, par exemple, un élève, métissé ou noir, a, 17 de moyenne et qu'il n'est pas pris, et qu'un élève blanc, par exemple, qui a 11 de moyenne, l'est pris, ils viennent dire, là, il y a un problème, c'est pas normal. L'élève blanc, on l'enlève du système et on met la personne noire. En fait, il faudrait qu'on mette des personnes qui vérifient que les choses soient bien faites, plutôt que de mettre de la discrimination positive qui, du coup, ça discrimine des gens.
Anna.
Après, je trouve que la population noire américaine a été bien souvent discriminée lors de la ségrégation notamment, où elle n'avait pas le droit à occuper des places dans les bus par exemple, et que la population blanche avait bien le droit. Donc moi, je trouve que c'est une bonne mesure pour les aider à bien s'intégrer dans le pays, parce que si on voit, c'est pas si lointain que ça. Les lois ont été prises en 1960, c'est pas si lointain. Moi, à peu près moins d'un siècle. Moi, je trouve que c'est une bonne mesure pour les aider à s'intégrer.
Noémie, vous vouliez rajouter quelque chose ?
pour cet argument-là, je trouve vraiment, vraiment, c'est rester coincé sur le passé, en fait. Enfin, ça va finir par être l'inverse, ça va être les Blancs, par exemple, qui vont être discriminés, et l'histoire va se répéter. Il faut vraiment passer à autre chose et ne discriminer personne pour éviter que ça se reproduise, tout simplement, parce que du coup, on essaye d'inverser les choses, et inverser les choses, c'est ce qu'on ne veut pas, justement.
Enfin, ce que je veux dire, c'est que, comme dit Noémie, c'est un peu pareil, c'est que il n'y a pas d'intérêt. Si on peut comprendre que ces populations, elles ont vécu des choses dures, mais si eux, on les avantage par rapport aux Blancs, c'est même pas leur rendre justice, en fait. Faut leur prouver qu'ils ont autant de capacités que les Blancs, et pas leur dire, bah tiens, on vous fait rentrer dans une école parce que vous êtes noir. Moi, franchement, si j'étais, même si je suis blanche ou que je suis noire ou peu importe, j'aimerais pas qu'on me dise, bah t'es intégré dans une école parce que t'es de cette couleur. Je veux qu'on me dise, t'es intégré dans cette école parce que t'as les résultats, que t'as bossé dur. Et ça sert à rien de faire rentrer des gens pour leur couleur. C'est vraiment pas leur rendre justice, en fait.
Moi, je pense que la discrimination positive, c'est bon parce que faut compenser ce qui s'est passé dans le passé lors de la ségrégation raciale.
Parce qu'on va rester coincé sur ça et on va pas avancer. Ouais, mais on va pas réparer une injustice par une autre injustice. C'est réduire les inégalités par une inégalité. Donc en fait, on creuse l'écart encore plus.
C'est la discrimination positive, c'est pour compenser.
Bah non, justement, la discrimination positive, ça part d'une discrimination pour en effacer une autre. Alors que non, du coup, ça creuse encore plus. Ça peut peut-être même être vu comme un cadeau empoisonné.
Et du coup, si je prends ton point de vue, Noémie, du coup, là, on oublie tout ce qui s'est passé, on vit normal. Il n'y a plus de ségrégation, il n'y a plus rien.
Non, on n'oublie pas ce qui s'est passé, parce que si on oublie ce qui s'est passé, on va le reproduire. Il faut l'avoir en tête, mais en effacer toutes les conséquences qui peuvent en découler.
Bah en fait, yes, comme tu dis, enfin, faut pas oublier, mais parce que, enfin, on peut pas oublier, c'est le passé, c'est justement, on le garde, on l'étudie pour pas recréer les mêmes erreurs, mais c'est juste que je sais pas, elle a raison, Noémie, ça creuse plus un écart qu'autre chose, parce que, en fait, ça met les Blancs d'un côté et les Noirs de l'autre, et du coup, ils se battent les uns entre les autres au lieu de, enfin, par exemple, je veux dire, moi, à l'école, imaginons, je vais me battre contre ma voisine, qu'elle soit n'importe quelle couleur, mais juste parce que je veux mériter ma place. Mais ça sert à rien de se... Enfin, là, ça fait vraiment des différences, quoi. C'est juste, comme dit Noémie, creuser l'écart. Tu mets les Noirs d'un côté, les Blancs de l'autre.
Creuser l'écart, sachant qu'il y en avait déjà eu un avec la ségrégation et tout ce qui s'est passé avant. Du coup, là, il y a déjà un écart. Du coup, vous voulez recréer un autre écart ou vous voulez resserrer l'écart qu'il y avait eu?
Ben justement, on veut le reboucher en disant, enfin, on veut vraiment plus qu'il y ait d'écart en disant, c'est pas les Noirs d'un côté et les Blancs de l'autre, on fait pas de différence. Parce que justement, à la ségrégation, on faisait une différence entre les Noirs et les Blancs. Les Noirs, on leur disait qu'ils étaient inférieurs. Et les Blancs, ils étaient supérieurs. Sauf que là, on est en train de... Enfin, c'est pas pareil, il faut pas exagérer, mais je veux dire, on est en train de faire passer les noirs, des personnes noires devant des personnes blanches. Faut pas faire ça. Faut dire, on s'en fiche de la couleur. Ça n'a pas d'importance.
Je vais laisser la parole à Lorraine, et ensuite, on va passer à un autre sujet.
Mais on constate toujours une différence, finalement, parce qu'ils sont discriminés.
Voilà, donc on va terminer là-dessus pour les minorités ethniques et nous allons passer aux pauvres. Et ma question est donc, que pensez-vous de la sécurité sociale destinée à aider les personnes les plus pauvres ?
Pour les pauvres, on devrait... Enfin, il y a énormément de partis qui considèrent qu'on devrait mériter sa place au sein de la société et ne pas être aidé. On en parlait tout à l'heure, c'est toujours le même sujet. On ne devrait pas être aidé parce qu'on n'a pas les revenus. On devrait être aidé parce qu'on n'a peut-être pas, je sais pas, les capacités intellectuelles ou quoi que ce soit. Mais le revenu ne définit pas ce qu'on a dans la tête.
Anna, vous vouliez dire quelque chose ?
Justement, y a des moyens qui ont été mis en place pour aider les pauvres, comme par exemple la bourse au Resto du Cœur. Ce principe est tout à fait super, car il permet aux personnes qui n'ont pas forcément les revenus de finir leur fin de mois, et ainsi de pouvoir se nourrir convenablement et de vivre comme toute autre personne qui a les moyens financiers.
Il y a des personnes qui trouvent que c'est injuste qu'on prenne de l'argent aux gens qui travaillent pour en verser aux plus pauvres qui ont du mal justement à trouver des emplois. Qu'est-ce que vous en pensez, Elias ?
Moi, je pense que si les gens, après, ils se plaignent qu'il y a des SDF qui dorment dehors ou je sais pas, si les gens qui travaillent se plaignent qu'il y a des SDF, qu'il y a des gens dehors, faudrait peut-être qu'ils donnent un peu de soutien aux gens qui dorment dehors en hiver pendant qu'eux, ils sont je sais pas moi, dans leur Mercedes avec chauffage plein, chocolat chaud, tout ça, tout ça.
Pour rebondir sur ce qu'a dit Lia, je ne dis pas qu'il a totalement faux, mais je dis juste que on peut aussi comprendre que quelqu'un qui travaille, enfin, tous les pauvres ne sont pas des personnes qui ne travaillent pas, faut pas non plus voilà généraliser. J'ai juste des personnes qui parfois travaillent, je peux comprendre qu'ils soient, enfin, frustrés qu'on leur prenne de l'argent qu'ils ont mis du temps à acquérir, qui est pour leur famille, pour les études de leurs enfants, et qu'on les donne à d'autres gens. Alors évidemment, enfin, c'est normal, c'est de l'altruisme, mais en même temps, je peux comprendre que ces personnes-là, ça les embête un petit peu de donner de leur argent qu'ils ont eu du mal à gagner pour les autres. Je peux comprendre.
Moi, je pense que si on leur donne de l'argent, ça leur offrira peut-être une porte pour aller travailler ou et peut-être, enfin, on leur rendra l'ascenseur. Par exemple, si on donne de l'argent à un pauvre, et grâce à ça, il arrive à retrouver un métier, refaire sa vie. Peut-être qu'il vous rendra plus d'argent ou quelque chose comme ça. Il vous rendra plus de bien. Enfin, voilà. Vous ferez des bonnes actions.
Anna,
on va prendre un exemple concret. Prenez l'exemple d'un étudiant qui a toujours vécu dans une famille pauvre, qui a les capacités à réussir à l'école. Et par exemple, si on ne l'aide pas, et bah, il ne pourra jamais faire ce qu'il voudra alors qu'il peut. Il peut le faire, alors que c'est pas parce qu'on est pauvre qu'on peut pas forcément réussir sa vie. Alors, au bout d'un moment, il faudrait donner les moyens aux personnes pauvres pour qu'ils puissent réussir, eux aussi, parce qu'ils sont pas si différents des personnes riches. C'est juste qu'ils n'ont pas forcément les mêmes moyens, ils ont pas forcément la même vision de l'argent. Ils se concentrent peut-être plus sur la vraie vie et peut-être que l'argent, c'est juste un artifice.
On va revoir ces dispositifs un peu plus tard. Est-ce que quelqu'un a quelque chose d'autre à ajouter, Ilyes?
Comme a dit Anna, par exemple, s'il a les capacités intellectuelles pour intégrer une école qui est payante, enfin, qu'il n'a pas les moyens pour, alors qu'il est meilleur que certains qui sont déjà dans l'école, pourquoi est-ce qu'on ne l'aiderait pas à faire ce qu'il mérite?
Bien, alors nous avons terminé sur les pauvres et nous allons passer aux handicapés. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire à propos de la discrimination positive sur les handicapés, notamment portant sur la loi de 1987 qui oblige toute entreprise de moins 20 salariés à embaucher au moins 6% de personnes ayant un handicap? Léna, je vous écoute.
Alors, la discrimination positive pour les handicapés, c'est à peu près pareil que la discrimination positive pour les minorités ethniques. Les handicapés, ils sont pris parce que les entreprises sont obligées de les prendre. C'est pas mérité, en fait. Ils sont pas là parce qu'ils ont mérité leur place, mais ils sont là parce que les entreprises sont obligées de les embaucher.
Julia, je pensais aussi que ça peut aussi baisser leur estime d'eux-mêmes, parce que se dire qu'on a été pris, ça va être peut-être un peu grossier, comment je veux le dire, mais parce qu'on fait de la peine aux autres et qu'on donne l'impression d'être incapable de faire quelque chose, c'est même négatif pour eux. Peut-être que certains le ressentent pas, mais je sais qu'il y a certaines personnes handicapées qui sont discriminées positivement. Se dire « j'ai été pris parce que je vois la peine dans les yeux des autres » et aussi parfois être de l'énervement, par exemple, d'autres personnes qui vont dire « oui, vous êtes là alors que vous n'êtes pas capable, il faudrait prendre quelqu'un de compétent ». On sait qu'il y a des personnes, par exemple, qui ont le cancer, qui sont pris pour, on va dire, des métiers un petit peu rudes où ça mérite beaucoup d'efforts, et des personnes qui vont leur dire « mais tu n'en es pas capable, c'est trop dur pour toi, pourquoi t'es là, tu devrais faire autre chose ». Et c'est rabaissant pour la personne qui est handicapée, en fait. Donc ça semble être un bien, mais moi je pense que ça fait aussi du mal.
Vous pensez que ça peut diminuer leur estime d'eux-mêmes?
Oui.
Ilyes, vous avez quelque chose à ajouter à cela?
Je suis d'accord avec ce que vient de dire Julia, mais ça les dérange qu'on prenne leur place dans les entreprises, mais pourtant ça les dérange pas de prendre leur place dans les parkings handicapés ou dans les trucs comme ça.
C'est-à-dire, j'ai pas compris.
C'est dérangeant que des personnes qui ne sont pas handicapées prennent la place de ceux qui sont handicapés, et du coup ça leur facilite pas la vie pour aller par exemple jusqu'à un magasin, un supermarché.
C'est tout à fait ce que je voulais dire.
Par rapport aux places de parking ou même aux accès handicapés, peut-être c'est peut-être une bonne discrimination positive, mais ça devrait être partout. Alors certes, c'est obligatoire, mais regardez dans vos villes, regardez dans vos villages, je suis sûre qu'il n'y a pas devant toutes les mairies ou même devant toutes les églises ou je sais pas quoi, un accès handicapé.
C'est pas un dispositif qui est assez présent pour vous,
c'est exactement ça.
Bah, faut en créer plus.
Très bien, pareil.
Je vous assure que, habitant dans un tout petit village, il y a bien des emménagements qui ont été faits dans une école primaire qui est située dans le village. Et pourtant, ce village, il n'y a aucune boulangerie, il n'y a rien, rien. Mais pourtant, il y a bien des aménagements qui ont été faits pour des handicapés. Donc, autant dire que c'est bien possible d'en trouver en ville ou dans d'autres villages qui sont dans le même cas.
Donc, possible qu'il y en ait dans des petits villages, mais peut-être pas assez.
Voilà, exactement.
Manon, je vous écoute.
Alors, par rapport aux emplacements des handicapés, il y en a peut-être sur tout ce qui est place de parking, mais par exemple, pour aller à l'école ou aller dans les magasins, il n'y a pas les emplacements où, par exemple, une montée à la place de prendre les escaliers ou un ascenseur. Il y a des écoles qui ne sont pas équipées pour ça, ni les centres commerciaux ou les bibliothèques, par exemple. Si un handicapé a envie d'aller lire et qu'il est en fauteuil roulant, il ne pourra pas, alors que ça devrait être possible pour tous.
Julia ?
Aussi, je voulais dire que, alors certes, on voit beaucoup, donc quand même, on va dire que c'est assez mis en valeur, le fait pour les handicapés physiques, souvent en fauteuil roulant ou en béquille. Moi, je voudrais aussi revenir sur les personnes qui n'ont pas que des handicaps physiques, qui peuvent être mentaux, ou même, par exemple, je parle de personnes qui sont muets ou sourds.
Des handicaps qui voilà. sont pas visibles.
Moi, par exemple, je trouve ça inacceptable que... on n'ait pas de dispositif. Hein. Par exemple, le langage des signes, je pense sincèrement que ça devrait être quelque chose qu'on devrait apprendre à tout le monde. Parce que si une personne comme ça est en danger, par exemple, on n'a rien pour l'aider. Et c'est pour ça que je pense que la discrimination comme ça, c'est même pas leur rendre service. Parce qu'il y a plein de choses qui ne sont pas adaptées pour eux. On les prend. Et après, ces personnes-là, elles sont mises en difficulté parce qu'elles n'ont pas forcément les choses pour être aidées, par exemple, elles vont travailler quelque part. Par exemple, comme je disais, une personne, par exemple, muette, qui va être prise pour remplir le quota. Et après, elle se retrouve sans aide. Elle est toute seule comme ça, livrée, et elle doit se débrouiller. Et déjà que c'est difficile, mais alors si en plus on les prend juste pour les prendre et que on n'a rien pour les aider derrière, franchement, c'est vraiment, ça leur rend aucunement service.
Vous pensez que la discrimination positive n'est pas tournée de la bonne façon ?
Non, pas du tout.
Noémie, vous avez quelque chose à ajouter à cela ?
Il y a quelque chose aussi, quand un handicapé déménage, il y a des cas où il va devoir refaire tout son dossier, donc qui peut être parfois très très long. Imaginez, vous avez un handicap à vie, vous devez refaire absolument tout votre dossier, tous les examens prouvant que vous êtes handicapé, parce que sinon, on vous supprime le revenu. Et par rapport à ça, les personnes en situation de handicap qui sont à la retraite, on va prendre la somme de leur retraite et la somme de l'aide à l'handicap. Et si la retraite est inférieure au remboursement du handicap, on va supprimer la retraite.
Est-ce que le parti pour a quelque chose à répondre ou quelque chose à ajouter ?
Mais après tout, un handicap, c'est quoi ? C'est avant tout une différence. Je donne un exemple. Par exemple, c'est pas parce qu'on est autiste que forcément... on ne sait pas faire grand-chose. Admettons, un autiste peut avoir des capacités plus développées dans certains domaines qu'une personne qui n'a pas du tout d'handicap. Donc, une personne handicapée, pour moi, franchement, c'est rien, parce qu'elle peut être tout à fait en raccord avec le poste qu'on lui propose.
Votre coéquipier Ilyes a quelque chose à ajouter.
Il y a un exemple de ce que vient de dire Anna, je crois que c'est à Carrefour, je crois, de Crépy, il y a une caisse où il y a une caissière, elle est malentendante. Ça l'empêche pas de travailler normalement, comme tout le monde. Est-ce qu'il y a des articles
Il y a plusieurs niveaux d'handicap, des handicaps qui des fois ne se voient même pas et des handicaps qui peuvent paralyser et être très handicapants, justement.
Justement, parlant de malentendants, pour savoir ce que c'est, moi, j'aimerais pas, sincèrement, qu'on me prenne pour justement le fait que j'entende mal. Je trouverais ça inadmissible, je veux qu'on me prenne parce que je suis capable de le faire et non pas parce que j'entends mal et qu'il faut remplir un quota. Moi, je pense que sincèrement, on me prend pour ça, je m'en vais, j'ai cherché ailleurs.
Cherche ailleurs, mais qui va te prendre, sachant que t'es déjà handicapé ? Vous, vous dites que ça sert à rien de prendre pour remplir des quotas, qui va te prendre ? Si t'es handicapé, qui te prendra, à part eux ?
En fait, je pense que si ces personnes-là me prennent pas, imaginons, je vais être caissière, je suis malentendante, ça va poser problème, je vais aller chercher peut-être un métier qui sera plus simple pour moi, parce que déjà, le client, c'est un petit peu embêtant, même pour moi, c'est embêtant, ça peut être compliqué, et c'est peut-être mieux de trouver un travail qui nécessitera pas forcément d'avoir de la communication avec les autres, alors je veux dire, en premier plan, pour faire quelque chose qui sera plus simple, rien que pour moi, de m'organiser dans mon travail.
On va terminer avec Anna, puis ensuite on va passer à un autre sujet.
Admettons, cette caissière, c'est le métier qu'elle voulait faire depuis son enfance. On ne va pas lui refuser ce droit. Sachant qu'en plus, le physique d'une personne handicapée ou même son mental peut repousser une entreprise. Parce qu'on va se dire, cette personne, elle n'est pas crédible, elle ne va pas bien représenter l'entreprise. Donc du coup, on risque de ne pas la prendre et de prendre une personne qui a l'air plus clean et qui va donc assurer la vie de l'entreprise. C'est un peu un principe de marketing, du coup.
Merci à tous. Nous allons passer à présent à l'origine sociale défavorisée avant le bac. Il y a des écoles spécialisées qui ont été mises en place, notamment en banlieue, qu'on appelle ZEP, et qui permettent aux élèves d'être aidés dans leur scolarité. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire à propos de cela ? Manon, je vous écoute.
Alors, pour les bâtiments des écoles ZEP, on peut en trouver dans des endroits, mais il n'y en a pas assez dans toute la France, par exemple. Il n'y a pas assez d'écoles pour aider tous ceux qui en ont besoin, alors qu'on devrait pourtant pouvoir avoir toutes ces écoles partout, très accessibles, alors que vu qu'ils ne sont pas partout, c'est peu accessible, donc on ne peut pas y aller tout le temps.
Je suis d'accord avec vous, certes il n'y en a pas assez, mais c'est toujours mieux que rien. Ça représente, c'est pas beaucoup, mais ça représente 15% des élèves qui sont quand même scolarisés, et dont 17% des collégiens. Après, je souligne un point positif, c'est qu'il y a quand même plus de professeurs pour un nombre restreint d'élèves, ce qui fait que le professeur va plus se concentrer sur l'élève, et d'autant plus que ce professeur a tout à gagner, c'est tout bénef, car il a une prime de 1 734 € par an.
Là, ça voudrait dire que on met des élèves, on va pas dire nuls, mais en fait, on les met carrément de côté. En difficulté, en les mettant carrément dans des autres écoles, en fait. Et alors qu'on pourrait tout simplement renforcer dans des lycées ou des collèges généraux, enfin même si, voilà, pas ZEP, le nombre de professeurs un petit peu plus pour les aider et pas carrément les mettre de côté avec d'autres élèves.
C'est vrai que ça donne l'impression, en fait, je suis d'accord avec Léna, de les impacter et de faire... Je sais pas comment expliquer exactement, mais c'est vraiment les mettre en groupe et dire d'un côté ceux qui arrivent et de l'autre ceux qui n'y arrivent pas. Il faudrait qu'il y ait des classes avec tout, quoi, avec autant d'élèves, et que oui, il y a des professeurs qui interviennent, mais dans des établissements où il y a de tout, parce que ces personnes, elles sont toujours entre elles, on les tire vers le bas, c'est pas quelque chose qui... elles sont carrément comme cachées, j'ai l'impression, en fait. On les cache et en avant, on met les autres. Faudrait vraiment tous les mettre ensemble et là, faire intervenir dans la classe, mais où il y a des élèves très bons et des élèves très mauvais. Mais c'est comme ça partout. Ça devrait être comme ça partout.
Pourtant, ces établissements qu'on appelait ZEP et qui sont à présent appelés REP sont destinés à aider les élèves et justement, pas à les descendre, mais à les monter, à leur faire atteindre des écoles plus grandes et plus prestigieuses. Ilyes, vous avez quelque chose à dire à propos de cela ?
Vous imaginez, dans des lycées généraux, par exemple, dans des classes de 35, par exemple, s'il y a 3-4 élèves en difficulté et toute la classe y arrive, si le professeur va aider les 3-4 personnes en difficulté, les autres élèves ils vont se plaindre de ne pas avancer assez dans le programme ou pas avancer assez vite ou quelque chose comme ça. Ils vont dire pourquoi pas les aider dans d'autres heures ou je sais pas quoi. Après, ça les mettrait... Enfin, ça mettrait, on va dire, 30 élèves contre 5.
C'est pour ça que, comme disait Lulia, il faut faire des classes hétérogènes, mais avec, par exemple, comme on a là, on a de l'AP, ça aide aussi quelques élèves. Il faudrait juste que les professeurs ils s'attardent un petit peu plus, mais pas mettre beaucoup d'élèves de côté.
Ça, et puis, comme je disais, il faudrait vraiment les mettre ensemble, parce que oui, comme elle dit, on pourrait mettre des heures d'AP, ou même, je sais qu'il y a le tutorat, il me semble, c'est parrainage, tous les trucs comme ça, où c'est des élèves même, des bons élèves, qui prêtent leur service pour aider des autres élèves, parce que sinon, ça crée des catégories, et ça emploie pas vers la diversité des élèves, ils sont tous réprimés d'un côté, et de l'autre, ça fait, c'est comme avec les problèmes ethniques, on crée deux équipes distinctes, en fait, alors que faudrait que ça soit des groupes et qu'ils s'aident les uns des autres, en plus d'être aidés par des professeurs et des cours supplémentaires.
On va terminer presque avec Anna. Léna, vous avez quelque chose à ajouter avant qu'Anna termine ?
En fait, je voulais dire qu'on a des élèves en difficulté, Et qu'en fait, ici, il n'y a pas que des bons élèves. Donc, en fait, ça ne fonctionne pas vraiment. Il y a toujours des élèves qui sont attardés, enfin, ce que je veux dire, qui sont attardés dans le programme. Pardon. Qui sont dans des lycées généraux. Et donc, en fait, ce qui sont vraiment nuls, en fait, ceux qui sont dans les CEP.
Terminé, Anna, et nous allons passer à notre dernier point.
L'exemple de la Sciences Po, de l'école Sciences Po, en effet, on peut y accéder en y allant via une ZEP. Si on est dans une ZEP, on peut y accéder. En effet, l'examen n'est pas plus facile, mais il est simplement différent. Et on peut donc y rentrer en fonction, on a nos capacités, donc on peut y rentrer. Et c'est pas pour autant que c'est plus facile.
Quelqu'un a quelque chose à ajouter pour terminer cette émission ?
Ce système pour Sciences Po peut justement mener les élèves qui y sont arrivés par la voie que beaucoup, beaucoup, beaucoup jugent la plus difficile à dénigrer ceux qui sont arrivés par Sciences Po. Il y en a qui vont leur dire qu'ils n'ont rien à faire là et donc du coup, bah, ça peut être vu comme un cadeau empoisonné. Donc.
Nous allons à présent terminer notre émission. Désolée à tous ceux qui voulaient rajouter quelque chose, mais le temps est écoulé. Merci à tous nos auditeurs. Et voilà, c'était Lycée Jean Monnet.
Vous êtes sur RVM,
Radio Vallon-Mulsien,
93.7, la radio qui vous écoute.